Jusqu'ici, ils n'y sont pas parvenus, mais le Royaume-Uni et l'Union européenne se donnent quelques heures de plus pour trouver un accord post-Brexit. De son côté, la France fait valoir ses intérêts. Elle menace de mettre son veto à un éventuel accord s'il ne lui convient pas. Éviter les injonctions, s'appuyer sur les professionnels de santé pour informer la population. Les pistes du monsieur vaccin contre le Covid-19 du gouvernement, nous les détaillons dans un instant. Face à l'épidémie de coronavirus, la Corée du Sud a souvent fait figure de bon élève. Aujourd'hui, le pays est confronté à une flambée du nombre de cas. Les autorités décident d'augmenter les restrictions sanitaires dans la région de la capitale, Séoul. Les Vénézuéliens appelés aux urnes aujourd'hui, élections législatives dans ce pays toujours frappé par une profonde crise politique et économique. L'opposition boycotte ce scrutin. Il n'enthousiasme personne dans les rues de Caracas, la capitale. Nous y serons. À la fin de ce journal, nous retrouverons Nabila Hamel et la face cachée du Globe, consacrée notamment à la situation au Liban, 4 mois après l'explosion sur le port de Beyrouth. Sans accord commercial post-Brexit, ce sont les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliqueront aux échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dès le 1er janvier, synonyme de droits de douane ou de quotas et peut-être d'un nouveau choc économique en plus de celui lié à la pandémie de coronavirus. Pour éviter une telle éventualité, les discussions reprennent entre les deux parties. Lakshmi Lotha, elles vont tenter de passer outre leurs divergences.
Lourde pression sur les épaules des deux négociateurs, David Frost et Michel Barnier, ont quelques heures pour tenter de démêler les derniers nœuds de la divergence. La présidente de la Commission européenne a donné une sorte de date limite hier soir. Ursula von der Leyen appellera le Premier ministre britannique demain soir. S'agira-t-il d'un dernier coup de fil pour annoncer un accord ou l'absence d'accord? Elle ne le précise pas. La France, de son côté, prévient qu'elle pourrait utiliser son droit de veto en cas de texte contraire à ses intérêts. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, évoque bien sûr la pêche. Les pêcheurs français doivent avoir un accès large et durable à la zone maritime du Royaume-Uni. Hors de question d'aller trop loin dans le compromis, fait donc savoir Paris. La presse britannique accuse d'ailleurs la France de bloquer les avancées. Mais l'Union européenne reste unie. L'équipe de négociateurs a maintenant la charge de trouver le point d'équilibre, celui où personne ne se sent trop lésé, c'est-à-dire un compromis.
Lakshmi Lotha, correspondante de France Culture à Bruxelles. 25 personnes en garde à vue, dont 2 mineurs après la manifestation contre la proposition de loi sécurité globale à Paris hier, manifestation qui a dégénéré. De son côté, le ministre de l'Intérieur indique qu'en tout, 95 personnes ont été interpellées partout en France en marge des cortèges avec le même mot d'ordre. Bilan définitif, précise Gérald Darmanin. Le vaccin contre le coronavirus doit concerner 3 millions de Français dans les 3 mois à venir. Précision du monsieur vaccin contre le Covid-19 du gouvernement dans un entretien au journal du dimanche. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Alain Fischer donne aussi ses pistes pour rétablir la confiance vaccinale.
Et oui, pour Alain Fischer, il faut absolument rétablir cette confiance de la société civile envers le vaccin. Dans cette interview, le professeur d'immunologie, chercheur en biologie, promet d'éviter les injonctions à la population. En fait, tout est affaire de communication. Alain Fischer explique que cette confiance sera favorisée par des messages bien faits, ciblés, répétés, en évitant les arguments d'autorité. Il compte sur les professionnels de santé et sur les personnes vaccinées qui pourraient devenir des ambassadrices du vaccin. Tout en assumant les incertitudes scientifiques, Alain Fischer assume sa prudence qui lui avait été reprochée lors de sa première conférence de presse jeudi. Il y a 2 impressions à ne pas donner, selon lui. Ça y est, on a des vaccins, tout est réglé et on y va. Ou à l'inverse, on n'en sait pas assez. On n'y va pas. Le questionnement scientifique n'est pas une preuve de faiblesse. Voilà sa réponse aux critiques. Il faut dire qu'Alain Fischer est un habitué du dialogue entre vaccination et société civile. En 2016, Marisol Touraine, à l'époque ministre de la Santé, avait fait appel à lui alors que déjà la confiance de la population envers les vaccins se dégradait. Ses propositions avaient notamment conduit à l'obligation de 8 vaccins supplémentaires chez les jeunes enfants. Concernant le Covid-19, tous les moyens seront bons pour rassurer les réticents au vaccin. Alain Fischer, lui-même professionnel de santé, toujours en exercice se fera vacciner pour l'exemple. Et pour rappel, Santé publique France publiait de nouveaux chiffres vendredi. Alors qu'en juillet dernier, 2/3 des personnes interrogées avaient l'intention de se faire vacciner, elles n'étaient plus que 53% en novembre.
Laura Dulieu, ces dernières 24 heures, plus de 11 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France, chiffre en baisse par rapport à la veille. La Corée du Sud, elle, confirme plus de 600 nouvelles contaminations. Déjà trop pour les autorités sur place, dont l'action pour contenir l'épidémie a souvent été citée en exemple ces derniers mois. Conséquence, Nicolas Roca, une augmentation des restrictions sanitaires dans la région de la capitale, Séoul, là où la situation préoccupe le plus.
Notre pays affronte sa plus grave crise depuis le début de l'épidémie. Ces mots du Premier ministre Chang Sye-kyun ce dimanche montrent à quel point les autorités sud-coréennes prennent au sérieux la situation sanitaire. La hausse des cas est quasiment constante depuis début novembre et a atteint un pic à 631 ce samedi. La région du Grand Séoul représente près des 3/4 de ces nouvelles infections. C'est donc en toute logique qu'elle est concernée par des restrictions supplémentaires. Alors que le pays dans son ensemble passe au niveau 2 sur 3 sur l'échelle des restrictions, le Grand Séoul est placé au niveau 2,5. Cela signifie que les compétitions sportives doivent se dérouler sans public, seul 1/3 des élèves se rendront en classe et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. À partir de 21h, les commerces seront ouverts uniquement à la livraison, ce qui fait craindre aux autorités une chute de la consommation alors que le pays a récemment renoué avec la croissance. Mais l'inquiétude vient surtout de la perte d'efficacité du modèle de rupture des chaînes de contamination. L'identification des cas contacts semble prendre du plomb dans l'aile, car le nombre de cas où l'origine de l'infection n'est pas identifiée est plus élevé que pour les premières et deuxièmes vagues. Cela peut faire craindre à une perte de contrôle d'une épidémie globalement maîtrisée depuis début mars. Afin de ne prendre aucun risque, les rassemblements publics seront interdits pour les fêtes de fin d'année.
Nicolas Roca, correspondant de France Culture en Corée du Sud. Le coup d'envoi d'élections législatives ce matin au Venezuela, pays à bout de souffle, englué dans une profonde crise politique et économique. Près de 20 millions d'électeurs appelés aux urnes, scrutin boycotté par l'opposition de Juan Guaido, majoritaire au Parlement depuis 2015, ce qui laisse présager un retour en force des partisans du président Nicolas Maduro à l'Assemblée nationale. Benjamin Delisle, c'est surtout l'abstention qui devrait l'emporter.
Dans un petit marché du centre de Caracas, les tambours ne suffisent plus pour éclairer le visage terne des passants. L'ambiance est morose, les législatives ne soulèvent aucun espoir. Et pour cause, personne ou presque ici ne compte voter. Raphaël est pourtant syndicaliste.
Je ne vais pas aller voter. Je considère que les conditions ne sont pas réunies pour aller voter ce dimanche. Il n'y a pas de transparence dans ce processus électoral.
Il reproche au gouvernement de s'être accaparé le scrutin en faisant nommer un conseil national électoral à son image. Il lui reproche aussi de forcer des Vénézuéliens au vote en menaçant de leur retirer des aides sociales. C'est d'ailleurs le cas de cette dame qui préfère rester anonyme.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il se passe, mais l'État m'a donné un appartement et je dois aller voter pour la révolution, sinon ils vont le reprendre. Une de mes amies a voté pour l'opposition à la dernière élection et lui ont retiré son logement.
Si elle avait eu le choix, elle n'aurait pas voté du tout. Selon elle, la crise politique et la lutte pour le pouvoir n'ont fait qu'aggraver la crise économique.
Tout est trop cher, chaque jour ça augmente. Moi je touche le salaire minimum, ça ne vaut même pas 3 dollars. Là, je viens d'essayer d'acheter des chaussures, mais c'était en dollars et ils refusaient les bolivars. Mais moi, on ne me paye pas en dollars.
Ces derniers mois, la crise sanitaire a accéléré la dollarisation informelle du pays. Le point positif, c'est qu'il n'y a plus de pénurie, mais cela ne règle absolument pas le problème, selon Juan, qui flotte dans ses vêtements tant il a maigri.
Même si avant, il y avait des queues devant les magasins, je mangeais mieux qu'aujourd'hui. La majorité des Vénézuéliens n'a plus les moyens d'acheter ce qui se vend dans les magasins.
La seule chose qui vient encore à manquer, c'est l'essence. Mais là aussi, pour y remédier, le gouvernement permet à certaines stations de vendre le carburant en dollars. Alejandro attend devant l'une d'elles.
C'est 50 centimes le litre, c'est beaucoup pour le Venezuela. Désormais, c'est une grosse dépense qui empiète sur les autres. Je perds du pouvoir d'achat. Ce prix en dollars, ça ne bénéficie à personne.
Plus de pénurie, mais moins de pouvoir d'achat. Aucune solution ne semble pouvoir infléchir la crise, ce qui contribue d'autant plus à détourner les Vénézuéliens des urnes.
Un reportage de Benjamin Delisle, le leader de l'opposition vénézuélienne. Juan Guaido tiendra la semaine prochaine une consultation populaire. Celui qui s'est autoproclamé président par intérim compte s'appuyer dessus pour proroger son mandat au-delà de sa date d'expiration au début du mois prochain. Pas sûr toutefois que les autorités le laissent organiser cette consultation. Et à 12h39, c'est l'heure de la face cachée du globe avec vous, Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour Marc. Un pays sans gouvernement, une enquête sur l'explosion du port de Beyrouth toujours pas bouclée, un audit de la Banque centrale au point mort et une paupérisation accélérée de la population. La conférence de soutien à la population libanaise, organisée cette semaine sous l'égide de l'ONU et de la France, a fait le constat de l'impasse dans laquelle se trouve le Liban. Pendant 20 ans, Alain Bifani a été directeur général du ministère des Finances. Il a démissionné en juin 2020 avant l'explosion du port, faute d'avoir été entendu sur un programme de réforme structurelle de l'économie libanaise. Au moment où son pays vit une crise existentielle, Alain Bifani sort chez l'Harmattan un essai intitulé « Déstructuration ». Faut-il voir dans ce titre une analogie à la situation du Liban aujourd'hui ? Il répond à Christian Chéneau.
En fait, le titre n'est pas venu tout seul. Ça a beaucoup à voir avec l'expérience de restructuration qui devait avoir lieu au Liban. Malheureusement, nous sommes en train de voir le Liban perdre son âme. C'est un pays qui est en train de changer de face parce qu'il y avait deux possibilités. Soit sortir par le haut avec les réformes, le soutien, un programme qui tienne la route. Soit sortir par le bas, c'est-à-dire attendre que ceux qui ont pillé le système fasse porter toute l'addition au peuple libanais, augmenter les inégalités de manière inconcevable, permettre à l'argent sale de s'en tirer et de se retrouver avec un pays qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Liban. Un pays de non-droit et un pays qui risque d'être un problème pour tous ses partenaires dans le monde.
Le Liban est dans une phase, j'allais dire, prémortelle. Et est-ce que un pays peut être mortel ?
Comme dans le livre, mais de manière tout à fait différente, la mort n'en est pas une. C'est justement une approche dans laquelle il y a simplement transfert de l'état corpusculaire à l'état ondulatoire et vice-versa. Et donc, en fait, il n'y a pas de mort. Il y a simplement une reconstitution d'une manière ou d'une autre. Pour revenir à votre question, non, un pays ne peut pas mourir. En tout cas, ce n'est pas le Liban qui va mourir. C'est une certaine image du Liban, c'est une certaine idée qu'on s'est toujours fait du Liban qui risque de mourir. Et ça appelle une action très rapide. Parce que l'inertie de l'élite dirigeante, le fait de ne rien faire de manière délibérée, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, le dernier rapport de la Banque mondiale le dit, c'est une chute délibérée. Eh bien ça, c'est non seulement une action criminelle de la part de l'élite dirigeante qui est en train de préserver ses acquis pour faire payer aux citoyens toutes les pertes qu'elle a accumulées à la banque centrale et dans le système bancaire, mais c'est aussi quelque chose qui va transformer le pays en un état de non-droit.
Qu'est-ce qu'il faudrait comme soins intensifs pour guérir le malade Liban ?
Tout ce que l'élite libanaise a saboté, c'est-à-dire un plan de redressement qui touche beaucoup de choses à la fois. Un redressement fiscal, une correction de la situation externe du Liban, c'est-à-dire le compte courant, bien entendu, qui est excessivement déficitaire. Un plan de redressement qui comporte les réformes structurelles dont on a besoin. Une restructuration de la dette, une restructuration de la banque centrale et une restructuration du secteur bancaire. Et bien entendu, une politique monétaire totalement différente de la politique de folie qu'on a suivie pendant des décennies et qui est de nature à ramener la confiance dans le système libanais. Et enfin, des filets sociaux absolument essentiels pour que le pays puisse passer cette étape et rebondir.
Alain Bifani, qui vient donc de publier « Déstructuration » aux éditions L'Harmattan. La Namibie, en proie à une grave sécheresse, met en vente 170 éléphants. Une vente qui ne se fera pas de façon inconsidérée, avertit le ministère namibien de l'Environnement. Le pays est en état de catastrophe naturelle depuis mai 2019 en raison de la sécheresse et il explique vouloir notamment restreindre les problèmes de cohabitation entre des populations locales et les éléphants, cette espèce menacée. Claire Bargelès, correspondante de Radio France en Afrique australe.
C'est une drôle de petite annonce qui est apparue dans le journal gouvernemental de la Namibie. À vendre 170 éléphants, les acheteurs doivent couvrir le coût de la capture et du transport et respecter toutes les exigences de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Le ministère de l'Environnement, qui organise cette mise aux enchères, explique qu'avec plus de 25 000 éléphants sur son territoire, le pays voit émerger de nombreux conflits entre les animaux et les populations locales. Les terres des agriculteurs sont régulièrement ravagées par les pachydermes, alors que le pays est souvent en proie à la sécheresse. En juin 2019, la Namibie avait déjà mis en vente plus d'un millier de buffles, de springboks ou encore de girafes pour leur éviter de mourir de faim durant un épisode de sécheresse de grande ampleur. Le ministère précise que lors de cette future vente d'éléphants, des troupeaux entiers seront capturés ensemble pour éviter de séparer des familles. Le Botswana, de son côté, qui compte le plus grand nombre d'éléphants au monde, avec 130 000 animaux, a préféré une autre méthode. La migration de ses pachydermes est favorisée vers l'Angola voisine. De plus, le pays vend à nouveau des permis de chasse, mesure très controversée et également en vigueur en Namibie.
À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Hamel. La face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Le temps cet après-midi, des éclaircies sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la façade atlantique et la côte méditerranéenne, également sur une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, c'est au mieux des nuages, au pire de la pluie, quelques flocons attendus sur les Alpes et dans le Limousin. Cet après-midi, il fait 3 à Strasbourg, 6 à Lille, 9 à Brest, Marseille et Bordeaux, 12 à Nice et Ajaccio. Ce journal a été réalisé par M. Léchili, moyen technique Audrey Guélil.